Salut Jérôme.
Salut Jean-Philippe.
Ça va ?
Ouais, super.
Aujourd'hui, on parle IA et agriculture, figure-toi.
Et bah donc, on va vérifier le champ des possibles, c'est ça ?
Le champ des possibles, mais quelle merveille. Allez, Elisa est branchée.
Elisa est branchée, elle s'impatiente.
Let's go. Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, on explore un domaine de l'IA que nous n'avons pas encore abordé, l'usage de l'IA en agriculture, avec un invité qui connaît très bien le sujet et qui est aussi particulièrement attaché à la notion de souveraineté en IA, on va y revenir. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne, Olivier Gréco, de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune-au-singulier.fm, sur son app Android et iPhone, bien sûr la bande FM, 93.1, le DAB+, et votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, et un petit pouce sur YouTube par exemple. C'est notre seule récompense, et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes.
Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
IA et agriculture, cela vous paraît des champs d'activité très éloignés, mais en fait, restez à l'écoute de cette émission car notre invité va vous démontrer le contraire. L'agriculture est sans doute l'un des secteurs d'activité qui génère le plus de données. Et parce que vous écoutez régulièrement Parlez-moi d'IA, vous le savez. Parce qu'en fait, vous savez que quand on a de la donnée, eh ben on peut faire de l'IA. Parce que la data, c'est le carburant de l'IA. Donc, si dans un domaine, vous avez plein d'activités et plein de données, ben, y a des chances que vous puissiez utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IA. Mais l'agriculture, ce n'est pas une activité comme les autres. C'est une activité stratégique. C'est une activité qui nous nourrit. Il est donc important d'être vigilant sur l'usage de nos données et des IA derrière. Et il est crucial de ne pas les confier à n'importe qui et de les mettre n'importe où. Bon, toutes ces questions, notre invité du jour se les pose quotidiennement en accompagnant ses clients. Et il va nous partager ses convictions et les travaux qu'il réalise à travers sa société de conseil BZIT, basée en Aquitaine. Bonjour Laurent Tripier.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur le plateau de Cause Commune.
Merci de m'accueillir.
Alors, parlez-moi d'IA, Laurent. Quelles sont les activités de votre société et quelles sont un peu vos spécificités en IA, notamment ? On rentrera dans le détail après, mais dans des grandes lignes.
Voilà. En deux mots, donc l'entreprise BZIT, qui existe depuis 9 ans, elle fait deux choses. Elle fait de la formation, la culturation sur l'IA, parce qu'on va en parler. La clé, c'est de comprendre tout ce qu'on peut faire avec.
Bien sûr.
Et après, elle accompagne pour mettre en place des solutions souveraines. Parce que, comme vous l'avez dit, on est très attaché à la question de souveraineté, c'est-à-dire au fait d'avoir des IA made in France ou made in Europe.
Très bien. Alors, commençons avec le côté formation. Effectivement, alors vous avez des clients, alors des coopératives, j'imagine, ou des grands exploitants agricoles qui viennent taper à votre porte et qui vous disent bon, on a entendu parler de cette histoire là d'IA là, mais tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment vous construisez les formations et quel type de formation vous donnez au monde agricole.
En effet, le monde agricole est très structuré, donc on travaille beaucoup avec les coopératives à mettre en place des programmes. On va dire qu'il y a 3 grands programmes, des programmes sur la data d'abord, parce que vous l'avez dit, l'agriculture collecte depuis longtemps beaucoup de données, sauf que là maintenant il y a la révolution de l'IA pour les faire parler ces données. Donc on a des formations sur la data, on a des formations sur les IA dans le sens traditionnel IA générative, comme on entend beaucoup parler, et après on a des formations sur des IA beaucoup plus spécifiques, parce qu'on va en parler, le monde agricole est un monde qui est très technique, et sur lequel les IA peuvent pas se contenter de faire simplement des résumés de texte. Il y a des questions de prédiction, il y a des questions d'estimation, il y a des questions de gestion de risque, et là on passe sur des systèmes beaucoup plus dits prédictifs.
Alors expliquez-nous, parce que ça c'est pas forcément évident d'un premier abord. Donc on se dit depuis l'intro là que les que la, le monde agricole génère beaucoup de données. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de données générées dans le cadre d'une exploitation et dans le cadre d'une coopérative par exemple?
Oui, tout à fait. Et ça depuis longtemps, depuis 1990, hein, Airbus et Arvalis avaient passé des accords pour récupérer les images satellites. Donc, vous voyez, ça date pas,
ah oui.
Ça fait déjà longtemps. Alors un exemple tout bête, vous êtes exploitant, vous faites du blé, enfin une culture, une grande culture, et votre grande culture elle est ravagée par un passage de sangliers.
Mm-hmm.
Ben avant, on faisait venir un expert qui allait sur une des parties qui a été ravagée, allait mettre un mètre,
oui.
Allait calculer et allait estimer le coût des dégâts. Ben maintenant, vous passez un drone qui lui va pas faire une mesure mais plusieurs mesures et qui va clairement estimer ben, l'impact des dégâts. Donc ça a double vertu, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins onéreux, ça remplace pas l'expert, parce qu'à un moment donné, même si il va y avoir une estimation de l'expertise par le système, l'expert va être quand même là pour le valider. Donc ouais. Là, vous avez un exemple, par exemple, d'estimation d'incident suite à des ravageurs.
Et vous me disiez en préparant cette émission que les exploitants aussi, ils sont amenés à produire beaucoup de données aussi d'un point de vue réglementaire, des données qui font remonter au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, parce qu'on leur demande en fait ces données pour mieux comprendre la manière dont ils exploitent leur exploitation tout simplement.
Ouais, et là vous mettez le doigt sur un point central. L'agriculteur est un générateur de données extrêmement important. Il est imaginé que quand il roule avec son tracteur, il capte de la donnée.
Mmh.
Imaginez que quand il traite ses champs, il doit rendre compte en fait de tout ce qu'il fait sur chacune de ses parcelles pour être en conformité avec la politique agricole commune qu'on appelle communément la PAC.
Mmh.
Et donc, il y a énormément de données collectées sur ces activités, déjà pour être en conformité avec les obligations réglementaires, parce que c'est très réglementé le monde de l'agriculture, et on peut comprendre pourquoi. Surtout, on va parler d'agroécologie, je pense, et des transitions climatiques. Et puis après, il y a tous ces équipements qui eux-mêmes, donc le drone va capter des données, le tracteur va capter des données. Il y a de plus en plus dans les grandes exploitations des robots de traite. Vous allez voir que, quand on va en parler, il y a énormément d'innovations qui sont faites pour le bien-être animal, et comment peut-on optimiser le bien-être animal au-delà, évidemment, du savoir-faire, de l'intuition de l'agriculteur, c'est aussi le système qui va pouvoir l'aider.
Vous parliez de la partie technique qui relève de la donnée, notamment le tracteur.
Mmh.
C'est de la donnée qui lui appartient, ça, après, à l'exploitant?
Voilà, donc vous mettez le doigt, vous avez un certain nombre hein, de mettre le doigt sur les vrais sujets, du coup. Là, on met le doigt sur un point important, c'est que beaucoup d'équipements ne redonnent pas directement la main, enfin la donnée à l'agriculteur, les centralisent, et c'est parfois compliqué de les récupérer. À ce titre, je voudrais faire mettre un peu le doigt sur une innovation qui s'appelle OSFARM, qui est la première plateforme française et européenne qui recense toutes les solutions open source pour faire ces robots, pour faire ces stations météo, pour ces logiciels open source. Là, par contre, vous serez propriétaire de vos données.
Bah, vous le savez, nous ici, open source, à cause commune, ça nous plaît beaucoup. On a des émissions dédiées. On a Libre à vous qui parle d'open source et de logiciels libres.
Mmh.
Oui, et du coup, donc c'est des plateformes qui permettent à l'exploitant de justement d'être autonome dans sa manière de gérer, dans sa manière logicielle de gérer ses données, ses activités.
Oui. Prenons l'exemple simple d'une station météo. Hein. Vous prenez une station météo avec un éditeur. Bon, beaucoup d'éditeurs sont ouverts, hein, mais avec un éditeur qui est pas ouvert, vous aurez pas accès à toutes les données de votre station météo. Vous aurez accès à celles auxquelles le contrat commercial vous donne accès. Tandis que si vous créez vous-même, parce que là on est même dans, on est au-delà de l'open source, hein,
oui.
on est dans l'open hardware, quoi. Donc vous allez pouvoir créer des systèmes. Et le monde agricole est très avancé comme ça. C'est des gens qui ont la culture du bricolage,
qui savent voilà. S'organiser techniquement,
c'est
quoi.
C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie révolution qui arrive avec le monde agricole. Moi, il y a un terme que j'aime bien, que j'appelle l'agri-diplomatie. Et on peut pas faire d'agri-diplomatie sans open source.
Et ils ont été longtemps quand même sous la coupe de grands groupes internationaux. On parle ne serait-ce que tout ce qui est semences déjà. Et peut-être qu'ils ont envie de s'émanciper et de s'autonomiser aussi par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'ils veulent pas re-rentrer techniquement dans des aspects d'exploitation où ils ont pas leur mot à dire, où ils deviennent juste les travailleurs de ces grands groupes finalement.
Voilà. Pour autant, on peut pas tomber non plus dans l'excès de la confrontation, parce qu'à la taille d'une exploitation, on peut pas avoir la puissance d'innovation d'un semencier international avec des laboratoires de recherche.
Ouais.
Pour ça que moi, je parle beaucoup d'agri-diplomatie, parce qu'il faut se mettre autour de la table. Mmh. J'aime beaucoup le terme de commun. Il faut discuter, parce que on a besoin de la puissance des grands groupes pour faire des innovations radicales aussi. Et on a besoin des agriculteurs pour avoir cette autonomie d'inventer les nouveaux modèles. Parce que tout le monde, avant-hier, il y avait un événement important qui s'appelle LFD, la Ferme Digital D, c'est le lieu de la rencontre agritech, et on entend bien qu'on est à la recherche de nouveaux modèles. Et pour ça, il faut que le monde de l'open source parle aussi avec les grands acteurs.
Mais c'est la rencontre de la technique avec une activité ancestrale.
Oui.
Vous avez une vision qui est très pragmatique. C'est-à-dire que bon, on parle de vos clients agricoles, mais vous avez globalement des clients dans le monde aussi industriel et dans les PME. Et vous repartez de la base. C'est-à-dire que vous repartez avec vos clients sur des choses essentielles de je rediagnostique, je recartographie les processus de l'organisation. Et c'est à partir de ce diagnostic-là que vous allez commencer à évoquer les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous abordez un nouveau client avant de lui proposer monts et merveilles en IA, comment vous abordez la compréhension et le diagnostic de ce client ?
Avec en effet le pragmatisme du monde agricole.
Ouais.
On ne va pas voir le monde agricole en disant tiens, regarde, ça c'est super.
Le bon sens agricole.
Le bon sens agricole, c'est on part d'un problème.
Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité.
Ah, Elisa, oui. Alors, Elisa, je vous ai expliqué, du coup, Laurent, c'est notre co-animatrice IA. Donc, c'est un LLM, hein, elle cherche à apprendre de tout ce qu'elle entend. Elle nous écoute depuis le début de l'émission et visiblement, elle réagit. Oui, Elisa ?
Comment pourrais-je apprendre ce qu'est le bon sens ?
Ah, d'accord. Elle réagit immédiatement à la question du bon sens.
Le bon sens, c'est...
Le bon sens agricole. Comment on apprend le bon sens agricole à une IA, Laurent ?
En allant sur le terrain, en observant la nature, en prenant le temps de l'observer. On n'acquiert pas le bon sens en une journée.
Ouais.
On l'acquiert par une observation régulière, continue, c'est même l'histoire d'une vie. À partir des observations, chercher à améliorer, formaliser les problèmes et partir en solution après.
Ouais. C'est prendre le temps de bien poser le problème avant de commencer à déployer pléthore de technologies et de solutions.
C'est excellent ce que vous dites, c'est le temps. Parce que la nature a des cycles qui sont beaucoup plus complexes qu'une observation d'une heure.
Et ça, il y a des clients qui vous le font comprendre, qu'il ne faut pas aller trop vite quand on leur fait travailler sur ces sujets-là.
Quasiment tous les agriculteurs vont vous dire que attention au technosolutionnisme rapide et qu'il y a un vrai temps d'observation, un vrai temps de test aussi. Le pragmatisme, c'est j'essaie, je pars de l'observation et je teste, j'échange. Ils échangent beaucoup entre eux. Hein. Vous savez qu'on dit beaucoup que pendant longtemps, l'innovation dans le monde agricole, c'était l'agriculteur B qui regardait ce que faisait l'agriculteur A à côté.
Oui.
Il attendait une année pour voir si ça marche. Si ça marche, pof, il le faisait chez lui. Donc, vous voyez que...
Oui, c'est, pour le coup, c'est du bon sens, là.
Voilà, mais c'est
effectivement.
Ça.
Et donc, ensuite, une fois que vous avez compris un petit peu les processus, comment vous avez compris comment l'activité se passe dans l'exploitation, vous essayez d'aller chercher, de bien comprendre les problèmes et vous leur proposez du coup des solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu de solutions que vous avez mis en œuvre ou que vous avez mis en œuvre en IA et en agriculture, des choses peut-être de l'agriculture de précision, ce genre de choses ?
Alors, il y en a certaines, c'est nous qui les avons mis en œuvre, enfin, qui les avons conçues avec les clients. Ouais. Il y en a beaucoup plus qui ont été déjà inventées par le monde agricole, c'est le comptage des pis de blé sur un champ, le comptage de pommes sur un arbre.
Tout ça se fait pas à la main.
Ça se faisait à la main.
Oui.
Il y avait un cerceau, hein.
Oui.
Un cerceau que vous alliez acheter chez Decathlon. Vous mettiez le cerceau, vous mesuriez la distance du cerceau, puis vous comptiez le nombre de pieds à l'intérieur. Vous
avez,
pendant longtemps, ça a été ça.
Oui.
Hein. Et depuis peu, il y a des solutions maintenant, en fait, avec un drone. Vous simulez un cerceau avec le drone, du coup, et il va, par reconnaissance d'image, hein, on va faire des réseaux de neurones, il va compter les épis dans le cerceau. Voilà. Donc le comptage est un vrai sujet.
Oui.
Parce que ça permet d'estimer les rendements, ça permet voilà, il y a
et du coup
nécessairement.
Ouais.
Donc il y a tout ce qui est estimation en quantité.
Ouais.
Après il y a aussi tout ce qui est anticipation des ravageurs. Là c'est un vrai souci.
Faire indemniser pourquoi du coup ? Ah non, pour anticiper pardon.
Il y a deux choses. Il y a d'abord anticiper pour mettre il y a un ouvrage que je recommande à votre audience qui s'appelle Un monde sans fin. F-A-I-M. Mm-hmm. d'Hervé Pio, qui est un ancien agriculteur très actif dans le monde du numérique.
Ouais.
Il a une formule que j'aime beaucoup, c'est l'agriculture va passer d'un monde intensif en intrants à un monde intensif en connaissances.
Ouais.
Il faut quand même produire pour 8 à bientôt 10 milliards d'habitants. Donc,
ouais,
on
ne
pourra pas produire qu'en maraîchage de proximité. Moi, j'aime beaucoup les AMAP, je suis adhérent d'une AMAP, mais elle nourrit 40 familles.
Ouais.
Elle nourrit pas toute la ville. Et du coup, il y a une transformation à faire, passer d'agriculture intensive en intrants à intensive en connaissances.
Ouais. C'est la connaissance qui va pouvoir continuer à optimiser les cultures sans forcément utiliser plus de produits chimiques et de produits d'agriculture.
C'est ça, parce que si on reste sur l'exemple, c'est comment détecter une maladie de façon la plus précoce possible pour pouvoir agir au bon moment et ne pas agir s'il n'y a pas présence de maladie, parce que c'est vrai qu'il y a certains automatismes installés parfois dans le fait de traiter des cultures, parce qu'on les traite habituellement à cette période. Donc il y a une innovation colossale à faire. Hein.
À mettre en œuvre. Mmh. Mais écoutez, on a bien posé les premiers éléments de cette émission sur IA et agriculture. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Bon, on va pas être meilleur que les IA en termes de biais, en termes de préjugés. Comme on parle d'IA et d'agriculture, on va se passer une bonne musique en liaison, puisqu'on va écouter un peu de la country, si vous voulez bien. Donc on va écouter I Didn't Know That Bobby Bee. Mais alors, quand même, c'est une chanson de country qui a été quand même générée par de l'IA avec l'outil en bêta qui s'appelle Udio.
Gonna plead ignorance, gonna tell them about how if I'd have known better, I just wouldn't. Say drinking turpentine ain't where it's at. Insurance fraud is a federal crime. Well, I didn't know that. You're telling me now for the first time. It turns out I really shouldn't eat that bad, and Twitter ain't a legitimate pastime. Oh, I didn't know that.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Merci Udio, on va remercier l'IA qui a généré le morceau. Il est pas si mauvais que ça ce morceau. Bon, après ça reste de la musique générée par IA, donc au bout d'un moment ça se ressemble beaucoup quand même, il y a pas beaucoup de variations. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à l'usage de l'IA dans le domaine de l'agriculture avec un spécialiste, Laurent Tripier de la société Bzit. Laurent, on était en train d'évoquer un peu des différents exemples d'usage de l'IA. Peut-être qu'on peut évoquer ce sujet dont vous m'avez parlé hors antenne, qui est celui d'aider l'agriculteur à remplir toutes les formalités liées notamment aux subventions et aux indemnisations de la PAC. Vous avez produit quelque chose pour une coopérative.
Oui, c'est une belle histoire parce qu'en plus c'est né de façon collective, c'est-à-dire que cette idée de la PAC est née lors du Salon de l'Agriculture, lors du premier hackathon IA Agriculture du monde, qui a eu lieu en février 2024, qui est parti encore une fois.
C'est récent.
Ah oui, c'est très récent. Et qui, encore une fois, vous voyez, était très cohérent avec la démarche paysanne et partie des problèmes. C'est-à-dire que 20 vidéos ont été faites passant par le réseau AgriTwittos, qui est un réseau d'agriculteurs connectés, où ils se sont pris en vidéo en disant « voilà mon problème ».
C'est la galère, quoi. C'est la galère de remplir ces trucs-là.
C'est ça. Et là, rendons hommage à Perrine, qui est la première à avoir pris ça.
Ouais.
Et a développé le premier socle de base en 48 heures.
Ah oui.
Donc Perrine, bravo. Et comme c'était une licence MIT, où donc on était sur licence open source complètement ouverte, et que nous on a trouvé ça génial, on l'a appelé. On a dit Perrine, on aimerait continuer le dossier.
Ouais.
Et donc
ça fait quoi en fait? C'est-à-dire que ça interroge le...
Oui, le sujet est assez simple. C'est en effet, c'est qui êtes-vous? Donc, où êtes-vous situé? Qu'est-ce que vous faites comme agriculture? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'agricultures différentes. Quelle est la taille d'exploitation? Ça pose un certain nombre de questions et ça aide à pré-remplir.
Ouais. Les questions vont guider l'exploitant à remplir.
Déjà à estimer.
À estimer déjà.
À estimer et ça va guider après remplir. Ça, c'est la version sur laquelle on travaille. Ouais. Mais l'enjeu, il est de remplir.
Ouais, c'est ça, c'est d'arriver au produit final qui n'a plus qu'à être l'envoyer par la poste ou par email, je sais pas.
Par email, du coup.
Et puis. Et là,
c'est un vrai sujet, je trouve, de coopération, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs autour de la PAC. Et l'enjeu de cette distance, c'est pas non plus de bouleverser l'écosystème des sachants autour de remplir la PAC. Les chambres d'agriculture ont un rôle aussi. Les coopératives ont un rôle, les experts non comptables ont un rôle. Donc en fait, on travaille, et là on a un bel exemple de RAG qui va être décliné en plusieurs versions.
Ouais.
Parce que être éleveur de porc en Bretagne, c'est pas la même chose qu'être faire du maïs grande culture à Pau. Et une exploitation de 60 hectares, c'est pas une exploitation de 300, 60 vaches, c'est pas 200, etc., etc. Donc en fait, on est en train de travailler, on va avoir des déclinaisons et on va mettre en système ce qu'on appelle l'orchestration d'agents.
Ouais.
Donc il y aura une entrée unique.
Mais qui s'adaptera à chaque...
Qui va interpréter votre question d'abord.
Ouais.
Et qui va rerouter après vers l'agent qui a la compétence. Parce que ouais. Vous voyez, ce qui est intéressant dans la notion d'agent, enfin de RAG et d'agent, d'associer la notion de RAG et d'agent, l'agent, c'est celui qui a la compétence.
Mmh. Alors, quand on parle d'agent, c'est l'agent numérique. Hein,
oui, l'agent IA, pardon.
Oui, c'est l'agent IA. Il n'y a pas un agent derrière le guichet et vous choisissez le guichet. Tout ça est numérique.
Voilà. Donc, on pose une question, elle est interprétée par l'agent PAC. Qui lui donc est un agent généraliste et qui, en fonction de vos questions, va rerouter vers l'agent PAC élevage, grande culture, maraîchage, etc. Et après, on va utiliser la notion de RAG. Mmh. Alors, le RAG, il intervient.
Alors, nous, le RAG, on en parle depuis désormais plusieurs émissions dans Parlez-moi d'IA. Donc, on commence à comprendre. C'est ce système qui permet, en fait, de partir d'un modèle généraliste et de le spécialiser en lui donnant des contenus très, très, très spécifiques. Et après, de travailler avec lui au fur et à mesure du temps pour l'entraîner de mieux en mieux. Et c'est vrai que dans tous les exemples qu'on a vus hors antenne en préparant cette émission, vous m'avez beaucoup parlé de RAG parce que, en fait, votre activité principale, c'est justement de proposer les grandes technologies de l'IA et de les décliner cas d'usage par cas d'usage. Donc là, en l'occurrence, comment vous envisagez ces déclinaisons
Le RAG, c'est un sujet extrêmement intéressant sur lequel il y a encore un peu de technicité à avoir.
Oui.
Je pense que ça évoluera dans les mois et les années à venir. Oui. Aujourd'hui, la technicité, elle va être de se dire est-ce que je suis un agent généraliste et auquel cas il va savoir répondre un peu à tout, mais il ne sera pas expert.
Ouais. ChatGPT.
Voilà.
Ouais.
Exactement. Ou alors, est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, sachant que ChatGPT, si vous lui posez des questions sur la PAC, il va vous répondre.
Bien sûr.
Par contre, il va vous répondre avec la base de connaissances dont vous maîtrisez pas exactement le sourcing.
C'est ça.
Le gros avantage du RAG, c'est que c'est vous qui définissez les sources de données. Donc déjà, on résout un problème qui est quand même un problème clé, qui est l'explicabilité.
Oui.
C'est-à-dire qu'on sait faire des documentations techniques en disant voilà la base de connaissances pour la partie RAG que l'on a utilisée. Donc là, et c'est là qu'on rentre en travail collaboratif avec les gens qui sont intéressés par le sujet. Donc on définit un ensemble de documents, donc il y a la documentation européenne évidemment, parce que c'est quand même l'Europe qui décide de ça. Et après on va aller chercher des compléments d'informations. Donc ça c'est la partie je trouve la plus technique qu'on appelle le RAG. En fait si on résume, il y a deux étapes. Hein. Il y a retrieve, c'est-à-dire je prends des documents, je les analyse.
Les index.
Je les indexe pour que la machine les comprenne. Et après, j'ai la partie generation, c'est on pose une question et je réponds à la question posée à partir de ce que j'ai analysé. C'est la première partie qui reste très technique,
ouais.
Sur laquelle on fait savoir à votre communauté qu'on ouvre en fait un thème de partage de bonnes pratiques autour de ça.
Là, il y a une annonce. Je sens qu'il y a une annonce, mais alors expliciter l'annonce du coup.
Ouais, l'annonce est simple.
Là,
vous allez sur Bzit, Open Data, et là vous allez avoir une partie RAG ici, et là on vous donnera tous les cas d'exemple sur lesquels on travaille.
Génial.
Parce qu'il y a beaucoup de techniques possibles.
Ouais.
Bon, une règle de base en fait, c'est que la bonne technique dépend du contenu que vous mettez.
D'accord.
C'est ça la difficulté.
Donc en fait, vous voulez ouvrir tout ce savoir-faire que vous avez acquis au fur et à mesure de vos expériences en montage de RAG, donc en montage d'IA spécialisé.
C'est ça.
Donc sur bzit.com, on va dans la rubrique Open Data, et vous partagez cette connaissance en espérant, j'imagine aussi, que d'autres puissent partager la leur et que ça puisse être mutualisé pour s'améliorer, parce que comme vous le dites, en fait il y a encore un peu de savoir-faire, un peu encore d'artisanat dans le fine-tuning, dans la mise en configuration de ces modèles plus fins et plus spécialisés.
Voilà, là il y a un papier à lire qui s'appelle Lost in the Middle qui est un papier scientifique qui est important, qui explique que quand on a des questions qui font plus de 4000 mots, je vais parler en mots parce que token c'est un peu technique,
et il vaut mieux avoir des questions qui ont plus de 4000 mots quand on veut avoir des réponses qui tiennent la route.
Oui, c'est même un peu ce qu'on dit, c'est que si votre question fait pas 4000 mots, attendez-vous à une réponse un peu généraliste, mmh. parce que si vous voulez une réponse très technique, bah, il faut expliquer beaucoup de choses à la mmh. machine, donc c'est un peu le seuil. Donc 4000 mots. Quand on a 4000 mots, ce que les études montrent, c'est que l'IA comprend bien le début mmh. et la fin.
Du corpus.
Du fait, corpus. Ouais. Et elle se perd un peu au milieu, ouais. d'où l'article Lost in the Middle.
Ouais.
Du coup, c'est pour ça qu'il y a toute cette technicité à mettre en œuvre pour pouvoir bien découper ce qu'on ouais. appelle le chunk en langage technique.
Et pour pouvoir forcer l'IA à regarder bien ouais. la totalité de la source qui lui est proposée et pas se focaliser soit sur le début ou soit sur la fin.
C'est ça, sachant ouais. qu'on est d'accord qu'un corpus de connaissances, ça peut être un texte TXT, là, c'est facile à lire. Mm-hmm. Hein. Par contre, si ça devient un PDF en chapitre, bah, ça serait bien qu'elle comprenne la notion de chapitre.
Ouais.
Et s'il y a des bullet points, s'il y a des encadrés, s'il y a des saviez-vous, et s'il y a des images, des tableaux, etc., des sons et des vidéos, vous voyez que c'est là que ça se complique. Et c'est pour ça qu'on veut partager avec la communauté en disant, bah, en fait, on va vous dire que quand c'est une vidéo, on utilise plutôt ça, quand c'est un audio, plutôt ça, quand c'est un
ça,
texte.
C'est très, très généreux de votre part, parce que vous y avez passé du temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc bah, écoutez, j'espère que ça va intéresser alors, plus les techniciens, j'imagine, qui nous écoutent, mais ça veut dire aussi que ça reste très artisanal. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que tout ça reste encore, même si c'est très technique et avec des technologies très poussées, ça reste encore très artisanal dans la manière de le partager et de le mettre en place. Vous vouliez qu'on parle de l'exemple aussi autour du port de Bordeaux, du jumeau numérique du fleuve.
Oui, parce que je trouve que c'est vraiment remarquable ce qui est fait. Le grand port de Bordeaux, en fait, qui est un lieu d'innovation assez incroyable, et je pense que les ports vont redevenir des lieux importants dans la mobilité. Donc, le grand port de Bordeaux a lancé un projet important qui s'appelle le jumeau numérique du fleuve.
Mm-hmm.
Donc, jumeau numérique du fleuve, c'est en fait la représentation numérique du comportement du fleuve, avec beaucoup de données. Et là, il l'a fait sous l'approche qu'on appelle un commun numérique.
Mmh.
Le commun numérique, c'est au-delà de l'open source, parce que ça veut dire, évidemment, les sources sont mises à disposition, mais on met en place une gouvernance, c'est-à-dire on se met autour de la table pour définir l'avenir de l'outil. Donc, le commun numérique, il y a une vraie question de l'avenir est dicté et la propriété par la gouvernance. Bon, en clair, cet outil permet quoi? Il permet de faire des simulations.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre un barrage?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe si j'installe une usine pas loin qui va reverser de l'eau, qui va pomper de l'eau? L'eau, on le sait, c'est un enjeu extrêmement important.
Notamment pour l'agriculture, effectivement.
Voilà. Et donc, du coup, il y a le lien avec l'agriculture, parce qu'un agriculteur, il a besoin d'eau. Alors, comment on facilite le dialogue? Vous avez vu que c'est parfois tendu, hein, le dialogue autour de l'eau dans l'utilisation par le monde agricole. Parce que le problème de l'eau, c'est pas qu'il y en a moins, c'est qu'il y en a beaucoup ou plus du tout.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai souci, c'est soit
il y a une vraie gouvernance à mettre en place pour pouvoir la gérer effectivement.
Voilà. Et jumeau numérique du fleuve, cet outil est en open source. Vous allez sur jumeau numérique du fleuve, vous allez pouvoir voir les modèles qui ont été utilisés, les simulations.
Ça permet un peu d'objectiver les situations,
oui.
et de mieux travailler ensemble sur cette question du partage.
C'est ça.
De la ressource, quoi.
C'est ça. Et c'est chez eux que j'ai appris ce mot d'hydrodiplomatie.
D'accord.
Voilà, c'est.
Mais que vous nous apprenez aussi un peu, hein, je vous l'avoue. Très clairement, on n'était pas trop fort en hydrodiplomatie jusqu'à présent.
Mais reconnaissez que c'est un imaginaire différent. Les Américains, ils nous vendent Waterworld, la guerre de l'eau, et
oui.
nous, et les jumeaux numériques du fleuve, ils nous proposent l'hydrodiplomatie.
Tout de suite, la vision est différente. Voilà. La vision de la manière de vivre ensemble. Et puis, du coup, encore une fois, et on va conclure sur cet aspect-là. Dans toutes les solutions que vous mettez en œuvre dans le monde agricole, mais ailleurs, vous mettez un point d'honneur à essayer d'être le plus souverain possible dans la donnée. Alors, on a parlé d'open data, on a parlé de la manière de la partager, et aussi dans les solutions déployées et hébergées. Comment on fait pour être souverain aujourd'hui quand on déploie des solutions d'IA dans les PME et dans les exploitations agricoles?
On essaie d'être cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire pragmatique. On peut pas l'être sur tout, honnêtement.
Ouais.
Aujourd'hui, on peut sur certaines fonctionnalités, on restera sur des solutions avec ChatGPT, parce qu'on n'aura pas le niveau technologique ou les moyens financiers.
Ouais.
Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On recense les besoins. Donc, c'est-à-dire qu'on éduque d'abord, on fait des formations pour que les gens comprennent jusqu'où on peut aller. En fait, la notion de formation est centrale parce que parfois. On se projette pas autant qu'on pourrait.
Ouais.
Donc là, on fait une formation. Après, on va sur le terrain. On questionne les gens sur le terrain. C'est quoi ton quotidien? Et puis, on s'intéresse. Où est-ce que tu perds du temps? Comment on pourrait t'aider? On mappe tout ça. On mappe tous les besoins. Et suivant une méthodologie qu'utilise BPI, qui est assez bien faite et pragmatique, impact, complexité.
Ouais.
Qu'est-ce qui a beaucoup d'impact et qui est pas compliqué? Et ben là, on fait souverain.
Oui, c'est ce que je disais. À chaque fois, vous essayez de reprendre les méthodes classiques, finalement, ouais. et de les appliquer à ces nouveaux outils.
C'est ça, vous avez raison. Hein. Enfin, impact, complexité, ça reste quand même... C'est des techniques de recensement de besoins qui sont assez connues.
Il ne faut pas hésiter à rester sur des éléments de base.
Et quand on applique ça, on peut être souverain sur beaucoup de sujets. Beaucoup.
Oui. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Laurent Tripier, c'est l'heure de conclure. Merci pour tous ces échanges autour de l'IA et de l'agriculture, et pas que, on a vu qu'on est allé un peu plus loin que ça dans les différentes notions. On vous retrouve sur votre site web, bzit.com, alors je le mettrai le lien, parce que bzit c'est compliqué à dire au micro, bz3it.com. Ouais. Bah écoutez, bonne continuation dans la progression en IA du monde agricole et dans le montage des rags. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si effectivement il y a des nouveautés dans le monde du rag qui est vraiment l'élément de l'IA qui bouge en ce moment. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites. Moi je suis un grand lecteur de vos podcasts.
Très bien, merci beaucoup. N'oubliez pas d'ailleurs, chers amis, de liker cet épisode et de dire autour de vous que c'est intéressant. Ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler l'algorithme. Restez sur 93.1 FM et on vous dit à bientôt.